Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission des Grands Entretiens. Il fut président du district d'Ajaccio en 1790 et membre de l'exécutif départemental de la Corse, commissaire des guerres en 1793 et ambassadeur 3 ans plus tard, député sous le directoire et conseiller d'État, sénateur en 1802 et grand électeur de l'Empire, commandant en chef d'armée, 2 fois roi, roi de Naples en 1806, roi d'Espagne en 1808 et lieutenant général de Napoléon de l'Empereur donc en 1814. Il est assez difficile de nier le destin absolument exceptionnel de Joseph Bonaparte. Pourtant, étrangement, parce qu'il vécut à l'ombre de son frère Napoléon, Joseph a été la victime d'une mauvaise réputation. N'est-ce pas le grand Metternich qui disait de lui dans ses mémoires, je cite, « Napoléon m'a souvent dépeint Joseph comme un homme doux de caractère et d'esprit, mais incapable d'entreprendre une carrière qui exigerait de la vigueur ». Storia Voce vous propose de faire mentir le propre frère de Joseph, qui fut aussi son premier détracteur, qui fut véritablement l'aîné des Bonaparte, qui devint le chef de famille après la mort du père en 1785. Quelles furent ses relations avec son cadet, avec Napoléon donc, et peut-on dire que Joseph devait tout à son frère ou qu'au contraire, son caractère, son tempérament le portait naturellement vers de hautes destinées? C'est ce que nous allons voir avec Thierry Lenz. Thierry Lenz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur de la Fondation Napoléon. Vous avez une œuvre absolument considérable sur le sujet. Donc je laisse nos auditeurs découvrir cette œuvre sur Internet. Et vous venez de publier aux éditions Perrin, dans la collection Biographie de chez Perrin, donc une biographie absolument magistrale de cet homme Joseph Bonaparte. Alors je vais vous faire une confidence personnelle, je ne fais jamais de confidence personnelle, là je vais en faire une. Quand les éditions Perrin, quand Amandine Dumas m'a recommandé votre ouvrage, j'étais prêt à me plonger dedans, comme l'on dit, mais j'y plongeais un peu à contre-cœur, n'étant pas un aficionado du monde impérial. Mais très vite, pour ne pas dire quasiment immédiatement, dès la première page, en fait, j'y ai nagé avec bonheur. Et pourquoi cela? Eh bien, vous l'écrivez vous-même. Ce sont vos premiers mots dans votre livre. Il faut oublier Napoléon. Pour écrire sur Joseph Bonaparte, il faut oublier Napoléon. C'est ce que vous avez fait.
Oui, il faut oublier Napoléon parce que c'est une autre façon de voir cette époque, à travers d'autres yeux, à travers un autre personnage. Vous l'avez dit dans votre introduction, le plus grand détracteur de Joseph Bonaparte, alors pour des raisons qu'on va expliquer, mais et Napoléon lui-même, qui l'a chargé à Sainte-Hélène dans ses dictées des pires mots, qui lui a imputé la responsabilité de l'échec en Espagne, qui a justement parlé de son amour des femmes et de l'argent, pour le discréditer un peu aux yeux de la postérité, mais surtout pour dégager ses propres responsabilités dans un certain nombre d'affaires, et l'affaire d'Espagne, évidemment, avant tout. Et en fait, si on veut parler de Joseph, mais il faut s'occuper de Joseph d'abord. Il faut savoir qui il était, il faut avoir de la documentation sur lui, et non plus la documentation indirecte à travers la documentation napoléonienne. Et puis, il faut se lancer dans cette histoire en prenant comme centre du tableau Joseph. Alors Napoléon passe évidemment très souvent dans le tableau, il est toujours là, hein, quasiment, en tout cas au moins jusqu'à sa mort, mais c'est au travers de la personnalité, de la carrière de Joseph que j'ai essayé de revoir tout ça.
Comment avez-vous choisi ce personnage? Est-ce que vous avez eu une intuition?
Alors, il faut toujours être franc à ce genre de questions. Alors, le choix, en fait, il est d'un très ancien éditeur à moi qui voulait absolument que je fasse une biographie. Alors, j'en ai fait déjà, mais pas de cette ampleur, on va dire, de cette longueur. Et nous avions cherché quel était le personnage du consulat et de l'Empire qui n'avait pas eu de biographe depuis très très longtemps. Et ce personnage, alors sachant que Talleyrand avait été fait par Emmanuel de Varesquiel, que nous savions qu'il préparait un Fouché, que Cambacérès venait lui aussi d'être traité, le personnage de Joseph Bonaparte nous a semblé être intéressant, d'autant plus que dans des livres précédents qui s'appellent La Nouvelle Histoire du Premier Empire, j'avais déjà eu un peu, comment dire, la puce à l'oreille sur la personnalité, l'importance de Joseph, en travaillant sur Napoléon, en fait. Et donc je me suis dit que c'était effectivement, s'il fallait faire une biographie d'un grand personnage du Premier Empire, ce serait lui que je choisirais. Tout ça, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. Et puis j'ai laissé, non pas dormir le sujet, mais j'y ai pensé souvent, j'ai mis de côté beaucoup de documentation. Et puis le moment est venu, l'année dernière, parce que j'ai eu la chance de récupérer des fonds d'archives, un que personne ou peu de gens avaient consulté, et deux, que personne n'avait jamais vu aussi, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de refaire une biographie de Joseph. La dernière était de 1970. Elle avait été faite par Gabriel Giraudelin, qui était un historien chevronné, qui s'était beaucoup attaché à la petite histoire de Joseph, ses histoires d'amour, ses histoires d'argent, et qui, à l'époque, n'avait pas eu accès aux archives, notamment à ce qui a été déposé aux Archives nationales en 1979, c'est-à-dire toutes les archives de Joseph saisies par Wellington à la bataille de Vitoria. Donc ces documents n'étaient pas revenus en France depuis, et donc il y avait déjà là un premier fonds. Très important. Puis j'ai décidé d'aller aussi fouiller d'autres fonds, aux affaires étrangères, à l'Institut, qui a un fonds de lettres personnelles de Joseph. Et puis j'ai eu un coup de chance, grâce à un de mes collaborateurs de la Fondation Napoléon, qui travaillait sur le docteur O'Meara, le médecin irlandais de Napoléon à Sainte-Hélène. Et il avait appris qu'il y avait, à l'université de Yale, aux États-Unis, un fonds d'un homme, un certain Louis Maillard, qui avait beaucoup connu O'Meara et qui en parlait dans ses papiers. Or, il se trouve que Louis Maillard est l'homme de confiance de Joseph Bonaparte. Il ne l'a pas quitté de 1808 à 1844. Il est probablement celui qui a le plus travaillé à la publication des mémoires de Joseph Bonaparte. Et donc, il y avait là, à Yale, 3000, 4000 pages que personne n'avait jamais vues sur Joseph Bonaparte, dont un journal au jour le jour de Louis Maillard, et puis surtout ses comptes. L'inventaire après décès détaillé, ce qui fait que là aussi, on avait un des aspects du personnage, c'est-à-dire sa dextérité dans les affaires qui pouvait apparaître, puisqu'on avait, beaucoup, beaucoup de choses sur ce sujet.
Et si mes souvenirs sont bons, dans les remerciements, vous remerciez une personne tout particulièrement,
oui, j'ai été béni.
Qui vous a permis de gagner un temps précieux. Les historiens, nous manquons toujours de temps.
Oui, il faut le dire. J'ai donc allé à Yale pour voir tous ces papiers. C'était 3 semaines, 1 mois de travail. Et puis, ceux qui l'ont fait savent très bien qu'on a des hauts et des bas dans ce genre de travail. Donc, il y a un risque de laisser passer des documents. Il y a un risque de bâcler quelques documents quand on est fatigué. Et là, j'ai rencontré, enfin, je connaissais depuis quelques années, mais j'ai vraiment rencontré une femme qui s'appelle Carole Blumenfeld, qui travaille sur le cardinal Fesch. Et comme Joseph Bonaparte a été le légataire universel de Fesch, elle allait à Yale pour consulter ce fameux fonds Maillard. Et donc, après discussion, elle a accepté de prendre en photo ce qu'elle pourrait du fonds Maillard concernant Joseph Bonaparte. Et en fait, comme ses grands-parents avaient fait autrefois un don très important à l'université de Yale, elle a obtenu la numérisation de l'ensemble du fonds. Donc, ce qui fait que j'ai eu à la maison les archives Maillard, copie des archives Maillard, ce qui fait que vous connaissez ça, hein, on va voir, on revoit, on vérifie, on change, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile lorsqu'on va prendre des notes ou lorsqu'on va photographier les documents aux archives.
Alors, faisons un peu d'uchronie, Thierry Lenz. Est-ce que, je vous cite, si Joseph avait été plus volontaire et plus cynique dans ses ambitions, plus méchant en quelque sorte, est-ce qu'il aurait pu prendre la place de son frère ? À vous lire, en fait, parce que vous réhabilitez le personnage. Et c'est ce que j'écrivais en prenant des notes, c'est que dès les premières pages, on sent dans votre écriture une forme d'émotion, je ne vais pas dire une compassion, mais il y a eu... Je ne vais pas dire qu'il y a une forme aussi d'injustice, mais presque, parce que c'est un homme qui avait des capacités.
Ah oui, il avait des capacités énormes. Lorsqu'on sort du témoignage de Napoléon et qu'on va voir les témoignages des autres, de tous les autres qui ne sont pas Napoléon, aucun d'entre eux ne vous dit que Joseph est un imbécile, un incapable, etc. Tout le monde vous dit, cet homme-là avait des capacités hors du commun. En revanche, par rapport à son frère, puisqu'il y a toujours la comparaison qui se fait avec son frère, par rapport à son frère, il n'avait pas le même tempérament. Joseph était, on est embêté d'utiliser ce mot, mais c'était un notable normal de son époque, c'est-à-dire qu'il avait ce qu'il fallait d'ambition, il avait ce qu'il fallait d'amour de la famille, d'amour de ses revenus, etc. Mais il ne subordonnait pas tout à sa réussite, et notamment pas à sa réussite politique. Alors, pour revenir à la question que vous m'avez posée, aurait-il pu ? Je ferai une réponse d'abord en deux temps. La première, c'est que Napoléon n'est vraiment devenu Napoléon qu'au moment de Vendémiaire, donc en 1795. En 1795, Joseph était déjà quelqu'un. Vous avez cité tout à l'heure son début de carrière, président du district d'Ajaccio, qui était une fonction très, très importante au début de la Révolution, puis membre du directoire du Conseil général de la Corse, encore plus, puis commissaire des guerres, il y en avait 145 dans les armées françaises à l'époque, donc c'était pas l'intendant du coin, quoi, c'était pas l'épicier du régiment, hein, c'était vraiment quelqu'un d'important au niveau d'une armée, et donc il avait déjà fait sa vie à ce moment-là, il avait déjà beaucoup progressé dans la carrière, et contrairement à ce qu'on dit, c'est absolument pas Napoléon qui lui a donné tous ses postes. C'est même le contraire. C'est Joseph qui a mis le pied à l'étrier de Napoléon au début de leur vie. Napoléon a toujours raconté que lui, il avait pris la famille en main, etc. Tout ça est une légende. Tout ça est faux. C'est Joseph qui a géré les affaires de la famille. C'est Joseph qui a su agrandir les propriétés des Bonaparte. C'est Joseph qui a sauvé sa famille au moment où elle quitte la Corse en 1793. Et donc, jusqu'en Vendémiaire, il est le chef du clan, sans aucune contestation possible. Alors Vendémiaire va tout renverser parce que Napoléon va prendre, lui, une importance politique nationale très importante. Et à ce moment-là, il va y avoir une espèce d'inversion de qui sert à qui, c'est-à-dire que ça va être plutôt Napoléon qui va aider son frère. Ceci étant, le frère n'en a pas tellement envie parce qu'il a fait un très très beau mariage, il est déjà très riche à ce moment-là, et puis surtout il vit plus en France, il s'est installé à Gênes, et il va falloir que Napoléon aille conquérir l'Italie pour que les deux frères se revoient, puisque le quartier général de Napoléon sera à 80 km de Gênes, donc Joseph ira le voir. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, il avait un peu la place de Napoléon dans les premières années. Puis la deuxième chose, c'est que, en effet, à plusieurs reprises, tout au long de sa carrière, il a été pressenti, soit pour remplacer son frère lorsqu'il était en Égypte, pour prendre une position nationale, on va dire, et puis ensuite pour remplacer son frère pendant l'Empire. C'est-à-dire que les gens se disaient, s'il arrive quelque chose à l'empereur, qu'est-ce qu'on va faire ? Ou au premier consul ou à l'empereur, qu'est-ce qu'on va faire ? Et les gens répondaient assez naturellement, mais il y a son frère Joseph. Et je dirais même qu'il le préférait. Parce que Joseph ne les brusquait pas, Joseph était un homme de paix, il était réputé comme étant un homme de paix, il était plutôt un libéral en politique, donc un peu le contraire, on va dire un peu le contraire de son frère. Et la dernière fois où on lui a proposé de prendre la place de son frère, c'était en 1814, pendant la campagne de France. On n'avait pas de nouvelles de Napoléon, les ennemis approchaient de Paris, et une petite équipe dirigée par Lacépède, le chancelier de la Légion d'honneur de l'époque, est venue voir Joseph pour lui proposer de prendre la place de son frère. Et il a refusé. Hein.
Alors c'est un homme qui a du caractère, et ce caractère il apparaît dès son parcours scolaire, parce qu'on le destine, ça a été une découverte pour moi, on le destine à une carrière ecclésiastique, et il souhaite changer d'orientation, et cette orientation il la montre très clairement,
oui,
en surprenant tout son monde.
Exact. Et au fond, ce premier épisode, ce coup d'éclat d'autun, là, comme je l'ai appelé, c'est tout Joseph Bonaparte, c'est-à-dire qu'on l'a voué à la prêtrise. Il n'a pas l'intention d'être prêtre. Napoléon aurait renversé les tables, jeté les chaises contre le mur. Joseph ne dit rien. Et Joseph prépare son coup. Et il va jouer sa carte au moment où plus personne ne pourra le contrer. C'est-à-dire qu'il est au collège d'Autun. Le prince de Condé, qui est le protecteur du collège, vient faire une visite. Et c'est au prince de Condé que Joseph annonce qu'il ne veut plus être prêtre, mais veut servir le roi, comme on disait à l'époque, donc être militaire. Et comme le prince de Condé approuve cette décision, plus personne, pas même sa famille, ne va pouvoir lui faire changer d'avis, lui faire changer d'orientation. Et je dirais que c'est un petit événement de jeunesse, mais enfin qui est quand même très important dans la vie de Joseph Bonaparte, mais qui montre bien sa façon de faire, c'est-à-dire ça n'est pas la peine de tirer des coups de canon à chaque moment. En prenant un peu de temps, en étant un peu patient, on va pouvoir arranger les choses, et puis il faut déposer sa carte au bon moment. C'est ce qu'il a fait. Et donc du coup, il sera pas prêtre. Alors il sera pas militaire non plus, parce que
il veut être militaire,
oui. Mais il est pas très très fort en mathématiques. On veut lui faire faire de l'artillerie. Là encore une fois, on décide pour lui. Et puis finalement, on va dire pour simplifier, c'est la mort de Charles Bonaparte en 1785 va donc le père de la famille va obliger Joseph à revenir en Corse, à rester en Corse, à s'occuper de la famille en Corse, et donc à prendre totalement cette fois-ci un autre destin, puisqu'il va être docteur en droit, puis avocat.
Alors, cette expérience de terrain, quand il devient le chef de famille, ce n'est pas immédiat d'ailleurs, hein, il y aura un certain temps, mais cette expérience de terrain, vous expliquez très bien qu'elle est importante, c'est-à-dire qu'il apprend sur le tas, on dirait aujourd'hui qu'il apprend par l'expérience.
Il apprend par l'expérience, d'abord à gérer un grand domaine, parce que les Bonaparte ne sont pas les pauvres gens qu'on a souvent décrits, hein, ils sont parmi les plus grands propriétaires de Corse du Sud, hein, en tout cas au moins la deuxième famille d'Ajaccio en fortune, et puis il va surtout, en étant en Corse, se constituer, on va dire, son premier réseau. Parce que Joseph, c'est une autre de ses caractéristiques, c'est un homme de réseau, c'est-à-dire qu'il a plusieurs réseaux d'amis qui vont rester ses amis toute sa vie. D'anciens condisciples du collège d'Autun vont se retrouver, qui son intendant général en Espagne, qui son aide de camp, etc. Il va aider les anciens d'Autun toute sa vie, et de même qu'il va prendre à son service et aider ses anciens camarades corses, là aussi tout au long de sa vie. Donc il va être très très vite dans la société insulaire comme un poisson dans l'eau. D'abord, il est peut-être le seul vrai Corse entre Napoléon et lui, il est le seul à être vraiment Corse, puisque il vit en Corse toute sa jeunesse. Et là, il va tisser des réseaux importants. Alors, d'abord, une grande amitié avec Charles-André Pozzo di Borgo, qui va devenir pourtant l'ennemi de la famille Bonaparte plus tard. Et puis, il va se rapprocher, au moment de la Révolution, d'un personnage sulfureux qui s'appelle Christophe Salicetti, qui va être à la fois député de la Corse, puis procureur syndic du département, c'est-à-dire une espèce de super préfet. Et la main dans la main avec Salicetti, Joseph va partir, on va dire, à l'assaut des sommets et à l'assaut de la fortune aussi, il faut bien le dire, parce que les deux hommes ont détourné quand même beaucoup d'argent pendant leur pouvoir en Corse.
Vous le montrez assez proche de son frère, finalement, même si le frère était absent. Il y a ces retrouvailles, hein, si mes souvenirs sont bons, en 1786. Je vous cite, « Joseph était subjugué par l'énergie et l'intelligence de son frère, si bien qu'il le laissa prendre une place importante dans le fonctionnement de la famille et la conduite de ses affaires sous les yeux énamourés, évidemment, de Laetitia, mais sans que soit remis en cause son aînesse et le tutorat de l'oncle Lucien. » Malgré tout, Joseph reste le premier. Il a des très bons rapports avec son frère, il n'y a pas d'ombre dans leur relation.
Oui, on peut dire que d'abord, le premier constat, hein, c'est Joseph est le seul vrai frère de Napoléon. C'est-à-dire que Napoléon a d'autres frères, hein, Lucien, Louis, Jérôme, mais Joseph est le seul que Napoléon a connu jeune, avec lequel il a vécu, et avec lequel il a constamment travaillé jusque à son arrivée au pouvoir. Les autres ont entre 6 et 10 ans de moins. Lorsque Napoléon revient en Corse juste avant la Révolution pour la première fois, il fait la connaissance de ses frères, qu'il ne connaissait pas, hein, mis à part Joseph. Donc là, il y a déjà cette proximité de l'enfance, cette proximité des premiers apprentissages, et puis ensuite, il va y avoir la proximité de la complicité des deux frères pour leur montée en puissance dans les affaires et dans la politique. Seul frère de Napoléon, probablement son seul ami, hein, Napoléon, on ne connaît pas d'amis à Napoléon, alors comme je dis parfois, il utilise le terme, mais il ne ressent pas le sentiment. Hein. Le seul véritable ami de Napoléon, ça va être Joseph, et j'irai même un peu plus loin, je ressens, là je ne peux pas le prouver, mais je ressens que autant Napoléon attachait beaucoup d'importance à la vie de son frère, autant son frère s'en moquait un petit peu. C'est-à-dire que Joseph avait un côté, était très détaché de tout ce que Napoléon voulait lui offrir, en quelque sorte. Il avait déjà obtenu par lui-même ce dont il avait envie.
Quand on vous lit, cette capacité de détachement, elle est absolument fascinante. C'est-à-dire que face à son frère qui a tous les pouvoirs, lui, on en parlera plus tard, mais il est à Mortefontaine, donc sa résidence, et vous le dites, il a ses hommes de réseau, il a ses repas, ses maîtresses.
Oui, il reçoit par exemple tous les adversaires de son frère. Il est ami de Madame de Staël, de Benjamin Constant, de Chateaubriand, de Lafayette, enfin, etc. Il reçoit chez lui, ce qui fait, pardonnez-moi l'expression, un peu fumer son frère, quoi. C'est-à-dire que lui, il est en danger de mort tous les jours avec son pouvoir, il travaille nuit et jour. Et puis, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit son aîné batifoler, en quelque sorte, avoir ce grand domaine, vivre en super bourgeois, et puis même à certains moments lui dire moi, les affaires de l'État, si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez toujours m'appeler, mais enfin, pas trop quand même. Et puis, pour revenir à cette période de leur jeunesse, Joseph, chef de clan, chef de la famille, il va rester chef de la famille toute sa vie. C'est-à-dire, ça, on l'oublie. Quand on regarde la correspondance de Napoléon, c'est évident. Chaque fois que Napoléon a quelque chose à demander à un de ses frères ou à sa mère, il passe par Joseph. Le nombre de lettres dans lesquelles Napoléon dit « Vous devriez demander à notre mère ceci, vous devriez voir Louis pour... » Ça prouve bien que dans le fonctionnement du clan, dans le fonctionnement de la famille, c'est toujours, même Napoléon empereur de l'univers, c'est toujours Joseph qui fait les commissions.
Je reçois Thierry Lenz, auteur de la biographie Joseph Bonaparte, une biographie parue chez Perrin. Que pense un homme de il a une vingtaine d'années, tout comme d'ailleurs Napoléon. Vous les décrivez en train de discuter d'idées politiques. Napoléon est plus proche de Rousseau, de l'œuvre de Rousseau, alors que lui, ce qui m'a beaucoup étonné d'ailleurs, mais alors que lui est plus proche de Montesquieu.
Oui, mais ce sera le cas de toute leur vie. Alors, avec à ceci près que les deux vont se jeter dans la Révolution, et puisque la Révolution doit permettre de réussir, ils vont parfois pencher vers le parti des Jacobins. Joseph, à Ajaccio, fait figure de révolutionnaire avancé. Alors que par tempérament, il ne l'est pas. Mais il va s'acoquiner avec les Jacobins, il va s'opposer à Pascal Paoli comme révolutionnaire, il va s'opposer à Pozzo di Borgo qui est plutôt monarchiste, parce que c'est le jeu politique qui le veut. Au moment de la répression de Marseille et Toulon, Joseph Bonaparte, qui est commissaire des guerres puis secrétaire de Salicetti, participe à la répression. C'est-à-dire qu'il plonge un peu le sang dans, enfin le bout des doigts, on va dire, dans les mains, dans le sang, pardon. Et ça, c'est quelque chose d'abord qui chez Joseph Bonaparte est exceptionnel, enfin je veux dire l'appel à la violence ou la réalisation de la violence, mais on voit bien que ils vont se servir de la Révolution, mais je veux dire, il n'y a pas qu'eux qui vont se servir de la Révolution, tout le monde s'est aussi servi un peu de la Révolution. Les purs et les vrais purs, on les a guillotinés, ceux qui ont survécu, c'est justement ceux qui savaient que ça pouvait être aussi une occasion de réussir sa carrière. Et les deux, Joseph comme Napoléon, vont naviguer dans ce milieu-là, avec, on va dire, l'arrivée au port de la libération pour Joseph un petit peu avant, toujours à cause de son mariage, il va rentrer dans la très grande bourgeoisie marseillaise. Donc là, il n'a plus besoin d'être jacobin. Il a réussi. Il a fait la meilleure affaire de sa vie en épousant Julie Clary.
Il arrive très tardivement sur Paris, en 1793, le 9 juillet 1793, très exactement. Et vous citez Frédéric Masson qui présente un peu ces Bonaparte sur Paris. Ils ont de l'audace, nulle timidité, nul respect humain, ils vont de l'avant. Ce sont des hommes qui semblent plus vouloir mener les événements qu'être menés par les événements.
Oui. Vous savez, en histoire napoléonienne, on a une grande tradition de chercheurs de mystères. Alors, de quoi est mort celui-ci ? Est-il enterré là ? Et ainsi de suite. Les gens qui aiment les mystères en histoire napoléonienne, ils en ont un qui est là, devant leurs yeux, et que personne ne peut résoudre, si ce n'est par tâtonnement. C'est comment expliquer que, dans une petite rue, d'une petite bourgade de 4000 habitants, à des centaines de kilomètres de la capitale, séparée en plus par une mer qui n'était pas aussi facile que ça à franchir à l'époque. Comment expliquer que cette petite famille crottée se présente sur le continent et conquiert les salons, les réunions politiques, plus tard le pouvoir, plus tard le monde, etc. Dans un style d'ailleurs absolument pas forcé. Hein. Tous les témoins nous disent que autant Napoléon que Charles Bonaparte ou Joseph, quand ils arrivent quelque part, ils se comportent exactement comme il faut se comporter. Ils ont une parfaite politesse, ils sont très cultivés, et ainsi de suite. C'est ça le vrai mystère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette rue d'Ajaccio donne les frères Bonaparte, donne Pozzo di Borgo, donne Bacciocchi, etc., qui vont être au pouvoir en Europe, quoi, hein, dans 25 ans plus tard. Et alors, la réponse, c'est très probablement que Charles Bonaparte a été beaucoup plus présent qu'on l'a dit auprès de ses enfants. Il leur a probablement prodigué des apprentissages. Rappelons qu'il était docteur en droit, alors un doctorat à la peau de lapin, mais enfin quand même docteur en droit, avocat. Il est allé à Versailles, il a été présenté au roi. Dans la famille Bonaparte, il y avait le fameux archidiacre Lucien, celui qu'on appelle l'oncle Lucien, qui était archidiacre de la cathédrale d'Ajaccio. C'était un des postes du clergé les plus importants, qui a donné des leçons, qui a appris à lire et à écrire aux enfants. Ils sont allés dans d'assez bonnes écoles ecclésiastique, et puis dans le milieu, dans ce petit milieu d'enfants là de la rue qui s'appelait la rue Malherba à l'époque, il y avait aussi le futur cardinal Fesch, qui est plus âgé que les autres et qui les prend en main, qui leur fait faire leurs leçons, qui leur apprend des choses, et tout ça, ça donne alors cette alchimie très, enfin on peut faire la liste des facteurs qui font que ils auraient pu devenir des personnages à l'aise et qui réussissent, mais comment ça marche? Quelle est l'alchimie qui fait que parce qu'on a lu les classiques, parce qu'on a appris le latin, parce que si, parce que ça, tout à coup on arrive à Paris et puis on est comme si on y avait toujours vécu. C'est un vrai mystère. Et alors, encore plus Joseph. Alors, c'est vrai que les années qu'il a passées au collège d'Autun ont été des années d'éducation extrêmement précises, valables, de telle sorte qu'il se comporte bien dans le monde. Mais c'est vrai, vous le disiez, première fois où il arrive à Paris, et en plus, on est en pleine révolution chaude, si vous voulez, bah, il arrive là-dedans. Il est comme chez lui, quoi. Hein, et tout le monde l'apprécie, et les gens le remarquent. Alors, je vous parle même pas de Napoléon. Hein, à la même époque, lorsque Napoléon fait la même chose, alors évidemment, là, c'est pas qu'on l'a remarqué, c'est qu'on l'oubliera jamais après. Hein.
Peut-être un mot, Thierry Nantes, sur Julie oui. Clary, qui est donc son épouse. Là aussi, on est attaché à ce personnage, parce que la pauvre, elle subit tant de choses, cette infidélité, mais elle restera toujours fidèle. Et à un moment, vous citez. Joseph Bonaparte, on sent qu'en dépit de ses infidélités, il reste amoureux de son épouse, non ?
Oui, alors, bon, d'abord, l'époque n'est pas totalement au mariage d'amour, et celui de Joseph et de Julie n'est pas au départ un mariage d'amour. C'est-à-dire que, alors d'abord, il faut situer, les Clary, ça n'est pas parmi les plus riches personnalités de Marseille, ce sont les plus riches. Hein. C'est-à-dire que c'est une famille qui est immensément riches. Ils ont fait fortune dans le commerce avec le Levant, ils ont des entrepôts, ils ont une banque qui est installée à Gênes. Ils sont vraiment très très riches. Joseph entre dans cette famille, on va dire par hasard, hein, les détails n'importent peu. Il veut d'abord épouser la plus jeune, qui s'appelle Désirée, la fameuse Désirée Clary. Et puis en fait, la famille le réoriente vers l'aîné, parce que l'aîné est une vieille fille de 24 ans. Joseph a à peu près le même âge, donc on se dit, on va mettre les vieux ensemble en quelque sorte, et Désiré éventuellement ira se marier avec Napoléon si les choses peuvent se faire. Et donc au départ, on voit que c'est une espèce d'affaire d'intérêt, des riches qui sont plutôt royalistes, qui font entrer dans leur famille un commissaire des guerres plutôt révolutionnaire, c'est quand même bon pour les affaires. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que Joseph va adopter, autant qu'il va être absorbé par ce clan des Clary. Là aussi, c'est quelque chose dont j'ai vraiment découvert l'importance au fur et à mesure, c'est cette famille Clary. On en trouve à tous les étages, sous le Consulat et l'Empire, sous la Révolution. Vous ouvrez un tiroir, il y a un Clary dedans. Hein. Ils sont d'abord très nombreux, ils sont 8 ou 9 frères et sœurs dans la génération de Julie. Il y a le chef de famille qui est le frère Nicolas. Et tous ces gens-là, ils vont faire gagner beaucoup d'argent à tout le monde. Alors, ils vont en gagner aussi aussi énormément. Et puis, ils vont avoir de beaux mariages. Il y en a un qui sera maire de Marseille, l'autre sera député, l'autre sera sénateur. Nicolas réglera toujours les affaires financières de la famille. Les Bonaparte vont avoir des comptes en Angleterre, en pleine guerre avec l'Angleterre, parce que Clary, évidemment, il connaît tous les banquiers européens, il peut arranger tout ça. Et donc, c'est vraiment la bonne affaire. Et puis finalement, Julie va trouver... Alors Julie, il faut dire que tous les témoignages concordent pour dire qu'elle était d'une laideur peu commune. Les peintres, avec beaucoup de difficultés, elles l'ont un peu arrangé, mais vous pouvez quand même pas tout cacher. Et c'est vrai que quand on voit des miniatures qui ont été faites un peu sincèrement, elle était beaucoup moins... elle était coupe rosée, elle avait le teint toujours pâle, elle était malingre, elle est tombée malade très très souvent dans sa vie. Mais finalement, elle a trouvé son petit Joseph fort à son goût. Et elle est restée son épouse jusqu'à la fin, hein. C'est-à-dire ils se marient en 1794, Joseph meurt en 1844, elle est toujours là. Elle donne deux filles à Joseph, Zénaïde et Charlotte, et puis Joseph, pendant ce temps-là, bah, lui, il va un peu courir le monde et courir le Guilledou, parce qu'ils vont être séparés pratiquement dès le début de l'Empire, ils vont quasiment plus se voir jusqu'en 1840, parce que Joseph, roi de Naples, parce que roi d'Espagne, parce qu'ensuite il a dû travailler ailleurs, puis quand il va partir en exil, il passe 25 ans aux États-Unis, c'est sans sa femme. Donc pendant ce temps-là, eh bien, il va avoir dans chaque capitale, dans chaque port, il va avoir une épouse officieuse et avoir des enfants avec cette épouse officieuse, hein, que ce sera le cas déjà en France, puis à Naples, puis en Espagne, puis en Amérique. Enfin,
on n'est pas sûr en fait du nombre d'enfants qu'il a eu.
On n'est pas sûr. Bon, on en connaît 6 ou 7 qui sont sûrs, mais il y en a probablement d'autres, parce que dans la correspondance privée qui est conservée à l'Institut de France, il y a plusieurs lettres d'anonymes qui disent cet enfant qui vous ressemble tant. Enfin bon, voilà. Hein, ce qu'on... Et alors, il y a une phrase que j'adore. Qui est tiré des mémoires de la princesse Mathilde, qui est donc la nièce, hein, de Joseph, et qui, parlant de sa tante Julie, dit « Ma tante Julie a toujours été célibataire puisqu'elle était mariée à Joseph Bonaparte. » Je trouve cette phrase résume parfaitement la situation entre les deux, et pourtant, ils vont faire une association, on va dire. Alors un mariage, sans doute, ils vont s'aimer. Les lettres qui s'envoient ne sont pas des lettres enflammées, mais ce sont des lettres toujours très tendres. Ils se sont beaucoup écrits, puisqu'ils se sont peu vus. Et puis, cette association, elle va très, très bien fonctionner jusqu'à la fin. N'oublions jamais que, bien sûr, on plaindra beaucoup Julie Bonaparte, mais n'oublions pas que c'est une Clary. Et les Clary, ils ont, si je puis me permettre, le business dans le sang. Et très probablement, dans la psychologie de Julie Clary, ça joue. Hein, ça joue aussi. C'est-à-dire qu'on va pas... on a une belle situation. On va pas tout casser pour une simple histoire de tromperie. Quoi, hein, voilà à peu près. Ils ont pris leur disposition.
Alors revenons-en à l'histoire politique. Est-ce que Thierry Nens, on peut dater très exactement le changement de comportement de Napoléon à l'égard de son frère, le moment où, en quelque sorte, il prend le dessus sur son frère et il sait que le destin, en quelque sorte, lui appartiendra?
Alors, il y a des dissensions entre les frères, y compris dans leur jeunesse. Napoléon va reprocher énormément, et dans des lettres plaintives presque ridicules de sa part, il va beaucoup reprocher à Joseph d'être parti à Gênes avec les Clary pour échapper à la Révolution, hein, en quelque sorte. Et donc, ça va être une première rupture, parce que lorsque l'équilibre va s'inverser, c'est-à-dire lorsque Napoléon aura épousé Joséphine, lorsqu'il va devenir un général en vue, c'est lui qui va un petit peu dire aux autres, attendez, maintenant regardez, c'est moi qui mène le jeu, et mais je serai bon. Parce que vous m'aviez oublié pendant votre voyage à Gênes, mais moi je ne vous oublierai pas, donc je vais vous aider.
Le mariage avec Joséphine est bien évidemment validé par Joseph, qui est le chef de famille.
Oui, alors Joseph valide, il déteste Joséphine, il va la détester toute sa vie. En fait, ils vont se détester parce qu'ils sont pareils. C'est-à-dire que ce sont deux personnes, par exemple, sur lesquelles Napoléon n'aura aucune prise. Hein. Joséphine, on le sait, Pierre Branda l'a bien montré dans sa récente biographie, Joséphine, elle sait faire avec Napoléon. Et Napoléon ne sait pas faire avec elle. Quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce d'anguille que Napoléon ne sait pas saisir. Mais c'est exactement la même chose du côté de Joseph. Et donc, forcément, les deux, se connaissant, sachant qu'ils peuvent jouir d'une grande liberté avec Napoléon, ils vont se surveiller beaucoup en chien de faïence. D'abord, il faut dire que Napoléon s'est marié, évidemment, avec un consentement postérieur de Joseph, postérieur de sa mère. Donc déjà, ça les a beaucoup ennuyés. Et puis Napoléon s'est rapproché de ce clan Beauharnais. Rappelons que Joséphine a deux enfants, que Napoléon va considérer comme les siens. Il y a aussi tout un clan Beauharnais autour, hein, avec des oncles, avec des cousins, avec des nièces, etc. Et il va y avoir, là, en fait, il y a trois nébuleuses qui vont s'affronter, alors qu'ils s'emboîtent parfois, qui se désemboîtent. C'est les Beauharnais, les Bonaparte et les Clary. Et ces trois clans-là vont, ils vont partir là aussi, un peu tous ensemble, en s'aidant les uns les autres, avec leurs réseaux respectifs. Ils partent à la conquête du pouvoir, avec évidemment un chef de file politique qui est Napoléon. Encore une fois, on disait tout à l'heure oublier Napoléon. Oui, bien sûr, il faut oublier Napoléon et cesser de toujours comparer Joseph à son frère. Parce qu'évidemment, on comparerait n'importe qui à Napoléon à cette époque, ça serait à son détriment. Simplement, si on veut connaître le vrai rôle, la vraie importance de Joseph Bonaparte dans l'aventure napoléonienne, il faut évidemment oublier de temps en temps Napoléon. Alors, ça se renverse petit à petit. Parce que Joseph va encore rendre de grands services au moment où Napoléon est en Égypte, dans la préparation et l'exécution du coup d'État. On parle souvent de Lucien Bonaparte qui, au 18 Brumaire, vous savez, menace de percer le sein de son propre frère si jamais il attente à la liberté. Là, ça, c'est les 5 minutes de gloire de Lucien Bonaparte, dont on nous rabat les oreilles depuis 200 ans. Mais voilà, c'est tout. Il a fait ça. Joseph, il a actionné ses réseaux. Il a neutralisé les Jacobins et Bernadotte, qui est devenu son beau-frère, puisqu'il a épousé Désiré, etc. Donc, vous voyez, il a eu un rôle, évidemment, qui n'est pas spectaculaire, qu'on ne va pas faire un tableau avec Joseph Bonaparte déjeunant avec son beau-frère. En revanche, on en fera beaucoup avec Lucien et son épée à la main. Et puis à partir de ce moment-là va avoir lieu une espèce d'accélération de la vie, de la pratique, de la marche de Napoléon, qui fait qu'au fond, comme Joseph c'est un peu un lambin, Napoléon va démarrer très très fort et va lui proposer rien au début du consulat. Alors, on ne sait pas pourquoi, il y a peut-être eu entre les frères des conversations, des discussions au moment de l'écriture de la Constitution, on n'en sait rien, on n'en a aucune preuve. Toujours est-il que c'est Lucien qui va être nommé ministre de l'Intérieur et Joseph ne sera rien pendant quelques mois. Donc il va aller à Mortefontaine, il va aller chasser, il va aller nager dans les étangs, heureux en fait.
Alors là, nous faisons un peu un bond dans le temps, mais je souhaiterais revenir un peu sur sa carrière, parce qu'on n'est pas étonné de le voir ambassadeur, et au fond on ne parle jamais des ambassadeurs, parce que ce sont des hommes de l'ombre, la diplomatie secrète, etc. Or c'est un très bon ambassadeur.
Oui, il est, alors grâce à son frère, il obtient, il doit quitter Gênes à un moment donné, il obtient d'abord un poste à Parme, et puis ensuite le poste le plus important de la diplomatie française à l'époque, Rome. Qui est Rome. Il n'y a pas eu d'ambassadeur de France à Rome depuis 1791, on est en 98. Joseph doit à la fois organiser le rapprochement avec le Saint-Siège, mais en même temps, dans ses instructions secrètes, on lui dit, si jamais le pape meurt, faites en sorte qu'il n'y en ait pas de nouveau et déclenchez la révolution à Rome. Alors, avec tout ça, les deux fois, à Parme et à Rome, lorsqu'il arrive, on s'attend à voir les ambassadeurs habituels de la République française, c'est-à-dire, on va dire, des individus un peu violents, un peu vulgaires, un peu grossiers. Et puis, on voit arriver cette espèce de grand seigneur. Joseph se comporte magnifiquement. Il va être, il va faire son travail, il va respecter ses instructions. Et puis, comme vous disiez, habituellement, les ambassadeurs, ce sont des hommes de l'ombre. Lui, il va avoir une aventure qui va le faire connaître de la France entière. C'est une émeute révolutionnaire
en 1798. Oui, peut-être.
Noël 97, oui, Noël 97. 97. Donc, il y a donc une émeute. Les émeutiers, qui sont des révolutionnaires, pourchassés par les troupes du pape, se réfugient à l'ambassade de France. Joseph veut les faire partir, mais il va négocier avec les soldats du pape en disant « Vous les laissez sortir ». Et au moment où il sort avec le général Dufaux, qui est son adjoint militaire en quelque sorte, et quelques autres, les troupes pontificales font feu et tuent le général Dufaux. Alors non seulement on le tue, mais après on le coupe en morceaux, etc. Enfin bref, Joseph, ni une ni deux, demande ses passeports et quitte Rome. Et Rome sera envahie par les troupes françaises quelques temps plus tard et le pape Pie VI sera arrêté. Et cette histoire de Joseph, elle va évidemment être connue de la France entière et surtout le directoire va considérer qu'il a bien agi en quittant Rome et donc va ordonner la publication, l'affichage de son rapport. Il va devenir, alors que son frère est en train de partir pour l'Égypte, il va devenir un Bonaparte à la mode. On perd un Bonaparte qui va conquérir la terre des pharaons, mais on en récupère un qui est le héros de Rome, en quelque sorte. Hein. Et ça, c'est très sensible. Il est l'homme du jour, comme disent les journaux à ce moment-là.
Et pourtant, vous l'écrivez un peu plus loin. En politique, Joseph nous laisse entendre dans son fragment historique que son jacobinisme s'était à jamais refroidi. Et vous ajoutez, l'affaire de Rome en fut en tous les cas le dernier avatar.
Voilà. Après ça, Joseph va devenir d'abord un thermidorien, si l'on veut. Hein, c'est-à-dire, il va se couler parfaitement dans la société du directoire. Et puis ensuite, au début du consulat, ben, il va conserver ses amitiés, ses habitudes. On disait tout à l'heure, tous les opposants à Napoléon passent à Mortefontaine, et parfois ils y passent des semaines dans des espèces de vacances.
Est-ce qu'on peut dire que le sommet de son parcours est constitué de ces fameux traités? Donc il y a le Concordat, il y a la paix de Lunéville, et puis surtout la paix d'Amiens.
Et la paix avec les États-Unis, oui. Qui est la plus petite des quatre, oui, mais c'est celle qui va lui être utile, parce qu'il va être très connu aux États-Unis, ce qui fait que lorsqu'il ira s'y réfugier en exil, il n'arrivera pas dans un pays où on ne le connaît pas. On va le connaître, on se rappellera de ce qu'il a fait en 1800. Quatre grands traités. Alors bon, on n'a pas le temps de détailler, mais à chaque fois, son action est importante. Et à chaque fois, on a beau dire, et bien sûr, les ambassadeurs ont des instructions, ils doivent les respecter, etc. Mais il va même, il y a par exemple dans la négociation d'Amiens, il donne une leçon de diplomatie à Napoléon, parce que Napoléon est impatient, il veut qu'on signe la paix, alors il lui écrit, je vous ordonne de rompre les négociations. Et la réponse de Joseph, c'est une très longue lettre où il lui explique ce qu'est la diplomatie, et il termine en disant, parfois, quelques heures perdues peuvent faire gagner des années de paix. Et c'est l'air de dire à son frère, bon, vous êtes bien gentil, mais arrêtez de vous exciter, j'ai la situation en main. Et effectivement, il signera la paix et il obtiendra les derniers avantages que voulait Napoléon. Et puis, le Concordat, dans la bulle de ratification du nouveau pape Pie VII, le seul personnage cité, c'est Joseph Bonaparte. Notre bien-aimé fils Joseph Bonaparte, que le pape remercie dans la bulle de ratification de ce qu'il a fait au moment de la signature du Concordat. Et le cardinal Consalvi, qui était le délégué du pape, dira « Sans Joseph Bonaparte, nous n'aurions jamais réussi à négocier le Concordat. » Parce que Joseph va faire un peu plier son frère, quoi, à un moment
donné.
Donc
ce sont vraiment, on peut qualifier cette époque d'apogée pour lui?
Ah, c'est incontestablement son apogée. À chaque traité signé, il touche une prime considérable. Il fait agrandir ses domaines, il fait refaire sa maison, il achète l'hôtel de Marbeuf, c'est-à-dire l'hôtel d'un neveu de l'ancien gouverneur de la Corse à Paris. Il va s'installer princièrement dans ce qui est la rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est l'actuelle ambassade du Japon, hein, enfin résidence de l'ambassadeur du Japon. Donc il arrive à la fin du consulat dans une forme olympique, si l'on peut dire.
Thierry Nantz, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Je voudrais dire un mot, donc je renvoie nos auditeurs pour la suite de l'histoire à votre ouvrage. Dans votre épilogue, vous montrez le retour des cendres. Et c'en est presque touchant, parce que ça se passe au moment donc du Second Empire, et on a l'impression que Napoléon III est complètement indifférent.
Oui, c'est-à-dire que alors Joseph meurt en 1844 à Florence, on l'enterre dans la basilique de Santa Croce où il a acheté une chapelle, et puis en 1862, quand le tombeau de Napoléon est terminé, Jérôme Bonaparte vient de mourir, on se dit on va mettre Jérôme à côté de son frère, et puis on se dit au fond, puisque Joseph voulait être enterré en France, pourquoi on ne le ferait pas revenir? Donc on se rapproche de sa famille, tout le monde dit oui évidemment, et puis en fait le retour va se passer dans l'indifférence la plus totale, ça ne sera même pas signalé par les journaux, il y a un journal qui publiera une information là-dessus, tout ça parce que Louis-Napoléon, devenu Napoléon III, et Joseph se sont beaucoup bagarrés pendant les années 1830. Hein. C'est le moment du changement de génération. Les vieux Bonaparte de la première génération ont du mal à laisser la place aux jeunes. Et là, il va y avoir un sérieux conflit entre l'oncle et le neveu. Et on peut penser que c'est un peu ça qu'a voulu montrer Napoléon III. Il est venu ni à l'arrivée du corps de son oncle, ni au moment où on l'a mis dans son tombeau des Invalides. Et puis, comme je le dis, la vanille suprême, c'est qu'on met Joseph dans un tombeau, bon, qui est joli, mais enfin qui n'est pas un chef-d'œuvre non plus, juste à côté de Napoléon qui prend toute la place dans les Invalides, et comme si on voulait dire, bah, tu vois, pour l'éternité, tu seras quand même comparé à ton frère.
Quelle était sa meilleure place, finalement, Thierry Lenz?
Ben, sa bonne place, ça aurait été de rester... sa meilleure place pour le sommeil éternel. Exactement. On aurait dû le laisser à Santa Croce. D'ailleurs, Julie y est encore, sa fille Charlotte y est encore, il y a encore des nièces à lui là-bas. La chapelle s'appelle Chapelle Bonaparte. Hein. Évidemment, quand on va visiter Santa Croce, on va plutôt voir le tombeau de Machiavel ou de Dante, mais bon, il y a aussi une partie de la famille Bonaparte.
Eh bien, merci beaucoup Thierry Lenz pour cette émission. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, une magnifique biographie de Joseph Bonaparte, paru aux éditions Perrin. Je remercie les auditeurs pour leur fidélité et je leur dis à très bientôt pour une nouvelle émission des Grands Entretiens.